RFI, 6h30, à Paris, 5h30, en temps universel. 7h30 à Goma, le journal. Bonjour Édouard Dupénoit.
Bonjour. Plusieurs centaines de morts en quelques jours à Goma. La République démocratique du Congo est évidemment à la une de cette édition. 700 personnes tuées cette semaine dans la percée du M23 soutenue par le Rwanda. Et encore, les Nations Unies craignent-elles que ces chiffres n'évoluent encore. Les ONG déplorent de leur côté le pillage de leurs entrepôts d'aide alimentaire dans la ville. Quant à la diplomatie, la SADC, la communauté d'Afrique australe, affiche son plein soutien à Kinshasa, mais sans condamner explicitement Kigali. Corps armés et corps constitués, président et premier ministre, anciens chefs de gouvernement et chefs de parti, tout le sommet de l'État tchadien réuni sur la base d'Adjikosei, anciennement base française, mais récupérée hier par N'Djamena. L'ambassadeur du Niger, au Bénin, qui présente ses lettres de créance, non pas encore au président Talon, mais au ministre des Affaires étrangères. Un pas de plus dans le rapprochement des deux voisins, en froid depuis le putsch à Niamey il y a un an et demi. Un verdict en pleine lumière, enfin, pour un géant de l'ombre, Trafigura, incontournable colosse du négoce des matières premières, condamné par la justice suisse dans une affaire de corruption. Quasiment une semaine, ce matin, après le début de l'offensive fulgurante du M23 soutenue par le Rwanda sur Sake puis Goma dans l'est de la RDC, les Nations Unies dénombrent au moins 700 morts et 2800 blessés également dans ces combats. Même si la capitale du Nord Kivu retrouve peu à peu son activité, elle reste très marquée par les affrontements violents qui s'y sont déroulés entre dimanche et mercredi matin. Les stigmates sont particulièrement visibles sur les entrepôts dévalisés et pillés ces derniers jours, notamment ceux qui servaient à stocker l'aide alimentaire de diverses ONG, des saccages qui vont entraver leurs opérations d'assistance. Beaucoup de ces entrepôts se trouvent dans le quartier de Bujovu, lui-même à l'est de l'aéroport de Goma. Lisa Fabian.
Des détritus calcinés jonchent le sol, les portes ont été arrachées et les réserves de médicaments entièrement vidées. L'entrepôt de l'ONG Handicap International ressemble à une coquille vide. À l'intérieur, des jeunes se bousculent pour arracher quelques bouts de métal à la structure éventrée.
C'est la faim qui pousse les gens à faire ça. Certains ont mis la main sur des sacs de farine ou d'autres provisions qu'ils ont vite ramenés chez eux pour se nourrir.
À Handicap International, comme dans les autres ONG, on estime que ces pillages pourraient encore accélérer la crise humanitaire à Goma. Eraston Ombeni travaille pour l'organisation.
Et on est arrivé, on a trouvé tout est vandalisé et tout a été pris, d'autres choses et des documentations brûlées, mais des effets pillés par des personnes non encore identifiées pour l'instant. On stockait pas mal de choses, notamment des vivres. Il y avait des intramèdes pour certains partenaires qui sont dans les volets médicaux. De manière ramassée, on était à plus de 45 tonnes de matériel dedans. Et ça va aussi diminuer leur fréquence d'intervention, d'autant plus que cet entrepôt-là, c'était un backup.
En début de semaine, alors que les combats faisaient toujours rage, plusieurs commerces ont aussi été la cible de pillages à Goma et un entrepôt du Programme alimentaire mondial a été vidé.
Sur le volet diplomatique de cette crise, maintenant, la communauté de l'Afrique australe se réunissait hier à Harare. La SADC particulièrement impliquée puisqu'elle déploie une mission dans le Nord Kivu. Le président congolais Félix Tshisekedi assistait par visioconférence à ce sommet. Il en attendait notamment une condamnation explicite du Rwanda dans son soutien au groupe armé. Les 4 heures de réunion à huis clos ne vont pas jusque-là. La SADC appelle à un nouveau sommet, cette fois-ci conjoint avec la communauté d'Afrique de l'Est, en redisant son soutien indéfectible à Kinshasa. Son secrétaire Elias Maroussi.
Le sommet a reçu les dernières informations sur l'évolution de la situation sécuritaire à l'est de la RDC et note avec inquiétude les attaques récentes du groupe armé du M23 et des forces rwandaises de défense à l'encontre des forces gouvernementales de la RDC, de la force de la SADC sur place, la SAMI-RDC et des populations civiles dans plusieurs zones du Nord Kivu. Le sommet se souvient de sa décision prise en mai 2023 de déployer une mission de maintien de la paix en RDC afin de soutenir le désir de paix et de sécurité du pays ainsi que la défense de son intégrité territoriale. À cet égard, le sommet a noté que ses objectifs n'ont pas encore été réalisés. Le sommet demande un sommet conjoint immédiat entre la SADC et la communauté d'Afrique de l'Est, comme l'a proposé l'EAC lors de son 24e sommet extraordinaire des chefs d'État, qui s'est tenu le 29 janvier 2025.
Elias Maroussi, secrétaire de la SADC, propos recueillis par Claire Bargelès. Le président tchadien récupère officiellement la dernière base française au cours d'une cérémonie qu'il a voulu très politique. Après que les militaires ont rétrocédé avant-hier ce camp d'Adjkossay, Mahamat Deby et un aréopage politico-militaire l'ont donc réinvesti hier matin, puisque outre le président, on comptait dans les rangs des invités les principaux galonnés de l'armée, les présidents d'institutions, les membres du conseil de transition, les anciens premiers ministres et la presse, bien sûr, dont notre correspondant Victor Moria.
Dans son discours, le chef de l'État tchadien a salué un jour exceptionnel de l'histoire du Tchad qui marque la fin effective de 125 ans de présence militaire française dans le pays. Parmi les invités du jour, Aziz Mahamat Saleh, secrétaire général du mouvement patriotique du salut.
Cette décision, elle est celle du maréchal lui-même et qui est suivie par tout le peuple tchadien. La présence aujourd'hui de tous les partis politiques, de tous les anciens premiers ministres, des grandes institutions, reflète cet engagement.
Symbole de cette unité, Succès Masra, le président des transformateurs qui revendiquait la victoire à la dernière présidentielle jusqu'il y a peu, a assisté à la cérémonie.
Le maréchal, comme moi-même, nous sommes de la même génération. Nous avons tous les deux 40 ans. Il est militaire, je suis civil. La diversité et la complémentarité de l'ensemble des Tchadiens, je crois que je l'ai vu aujourd'hui ici. Et donc c'est ce rendez-vous avec l'histoire et ce rendez-vous avec l'avenir que je suis venu prendre, parce que c'est un jour particulier.
L'ancien Premier ministre et président du RNDT, le Réveil, Albert Pahimi Padaké, salue lui aussi la décision du président.
La présence française sur notre sol n'avait pas vocation d'éternité. La souveraineté d'un peuple fait toujours l'unanimité. Il ne peut pas y avoir des oppositions à ce niveau-là.
Dans quelques jours, le Tchad ouvrira la première législature de la 5e République. Victor Morian Djamena, RFI.
Le journaliste comorien Abdou Moustapha, convoqué devant la justice après sa dépêche litigieuse, le correspondant de l'agence Reuters devra répondre d'accusations liées à la publication et diffusion de fausses nouvelles. Son audience à Moroni est prévue jeudi prochain. Cette convocation est intervenue hier vendredi après 24 heures de garde à vue. La présidence lui reproche en fait d'avoir mal traduit une phrase du chef de l'État sur sa succession. Cette fameuse histoire de fils qui serait appelé à succéder au président Azali Assoumani. C'est le ministère public qui s'est saisi du dossier, mais le syndicat national des journalistes dénonce un acharnement et appelle à une solidarité autour de leurs confrères. Un pas supplémentaire franchi dans le réchauffement des relations entre le Bénin et le Niger. Le nouvel ambassadeur du Niger au Bénin est à Cotonou et il a pu présenter une copie de ses lettres de créance au ministre béninois des Affaires étrangères, Cheikhoun Bakary. Cela fait un peu plus de deux mois que Chaïbou Kakadé a été nommé ambassadeur. On rappelle que les relations Bénin-Niger achoppent toujours sur la question de la frontière. Niamey la maintient fermée de son côté en suspectant toujours son voisin de vouloir le déstabiliser. Mais le dégel semble bel et bien en marche, Jean-Luc Aplogan.
Le diplomate nigérien, greffier de formation, a été reçu environ une heure par le ministre des Affaires étrangères du Bénin. Il était accompagné de la chargée d'affaires, du consul et de l'attaché de défense. Les échanges ont tourné autour de la décrispation commencée en juillet dernier, qui n'est pas encore totale. Les deux pays ont nommé leurs ambassadeurs respectifs. Le Béninois exerce déjà pleinement ses fonctions à Niamey. Autre signe d'apaisement, le chargement régulier et sans encombre du brut nigérien sur la plateforme de Semepoji. Un nouveau navire est d'ailleurs annoncé pour le 3 février prochain. Le point noir reste la réouverture de la frontière terrestre entre les deux pays en raison des soupçons de Niamey. La réunion proposée entre les états-majors des deux pays pour régler le problème ne s'est toujours pas tenue. Une piste explorée en ce moment pour achever la décrispation, la tenue de la grande commission mixte prévue en 2023 est décalée. Plusieurs diplomates l'appellent de leur vœu. Jean-Luc Aplogan, Cotonou, RFI.
Un éboulement survenu il y a deux jours dans une mine artisanale de la région de Koulikoro au Mali fait craindre plusieurs victimes selon déjà le gouvernorat local. Cela s'est passé dans le village de Danga, dans le cercle de Kangaba. Les victimes sont majoritairement des femmes. Pas de chiffres officiels précis encore. Les recherches se poursuivent dans des conditions difficiles pour tenter de retrouver des survivants et des survivantes. La justice suisse prononce une condamnation historique contre Trafigura, l'entreprise géant du négoce de matières premières, devra régler une amende de 3 millions de dollars. Et son ancien numéro 2, Mike Wainwright, écope de près de 3 ans de prison, 32 mois en fait, dont un an ferme. Tout cela après une affaire de corruption en Angola entre 2009 et 2011. Ce n'est pas la première fois que le nom de Trafigura apparaît dans des affaires ou des suspicions de pots de vin, mais jusque-là, soit l'entreprise transigeait avant les procès, soit les condamnations tombaient sur des sous-traitants ou des intermédiaires. Ce n'est donc plus le cas, explique Adria Bedricarbo. Il travaille pour l'ONG l'ONG Public Eye, spécialisée dans ce genre d'affaires.
C'est un message qui dit aux traders, désormais votre entreprise n'est plus en mesure de vous protéger contre la justice suisse en cas d'acte illicite. La justice suisse est prête à venir vous chercher. Jusqu'à présent, c'était des solutions négociées, donc l'entreprise reconnaissait sa culpabilité en échange d'une amende, et puis surtout, donc on n'avait pas l'occasion d'étudier, d'analyser les preuves devant un parterre de journalistes, du grand public. Donc avec ce procès, on est véritablement entré dans la cuisine interne de Trafigura. Ce qu'il faudrait, c'est que la Suisse adopte des amendes réellement dissuasives, parce que Trafigura a été condamné à 3 millions d'amendes, et puis également à rendre le profit illicite, donc 145 millions, pour une société qui a fait des milliards de profits durant les 3 ou 4 dernières années, c'est pas grand-chose. Par contre, au niveau réputationnel, ça sera évidemment compliqué pour Trafigura. On peut imaginer qu'il y aura beaucoup de questions de leurs banquiers ces prochains temps. Et puis surtout à l'interne, auprès des personnes physiques, le signal est également extrêmement fort. Vous pouvez terminer derrière les barreaux pour des actes de corruption commis au nom de Trafigura.
Adria Bedri-Carbo de l'ONG Public Eye avec Claire Fage. J'ajoute que le fonctionnaire angolais Paul Govea Jr. a été condamné à 3 ans de prison, dont 14 mois ferme, pour avoir accepté plus de 5 millions de dollars de versement. Des artistes qui doivent s'engager à ne pas dire de grossièreté, des spectacles soumis à une autorisation préalable. Les autorités de l'Est de la Libye adoptent une batterie de mesures restrictives quant à la liberté artistique et à la liberté de création. Elles semblent viser tout particulièrement le rap, ces textes de révolte et de contestation, ces clips viraux qui se diffuse en un claquement de doigts. Quiconque veut sortir un morceau doit d'abord promettre de ne choquer personne. Et Ouda Ibrahim, ça concerne aussi les spectacles.
Selon la circulaire du ministère de l'Intérieur du gouvernement de l'Est libyen, un chanteur et compositeur de rap doit au préalable signer un engagement indiquant qu'il n'utilisera pas dans ses chansons des mots obscènes qui pourraient heurter les valeurs sociales. Les textes ne doivent pas non plus contenir des expressions ou des paroles qui pourraient pousser le moins de 18 ans à commettre des délits ou des actes de rébellion contre l'autorité parentale et sociétale. La circulaire se réfère aux articles de la loi libyenne en matière de moralité publique et de religion. Elle mentionne que certaines chansons qui circulent fortement parmi les jeunes ne respectent pas les valeurs libyennes. Mais désormais, toujours selon la circulaire, toute production scénique, musicale, théâtrale, dansante ou autre doit avoir une autorisation sécuritaire préalable et avant même sa diffusion à la radio, à la télévision ou sur les réseaux sociaux. Cette décision toute récente commence à susciter la polémique dans le milieu artistique. Elle inquiète les défenseurs de droits en Libye et surtout à l'Est, où au début de l'année, une décision d'interdire de fêter le jour de l'an a également été prise et appliquée par le ministère de l'Intérieur.
Ouda Ibrahim à 6h40.